France Inter. France Inter. Ali Badou, Marion Lourd. Le 6-9.
C'est même une certitude, 6h, le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour à tous. Comment sortir politiquement de la crise calédonienne? Pour l'exécutif, pas de dialogue possible avant le retour à l'ordre, vous l'entendrez. Les renforts policiers arrivent sur place et les violences s'atténuent un peu à Nouméa. Plombé par une série de crises, Boeing réunit aujourd'hui ses actionnaires, assemblée générale à haut risque pour l'avionneur américain qui pourrait aussi se retrouver devant la justice aux États-Unis. Nos explications à suivre. Au sommaire aussi, le chargement du combustible désormais achevé à l'EPR de Flamanville et les premières notes du nouvel album de Billie Eilish, un cadeau France Inter aujourd'hui.
France Inter.
Situation plus calme, plus apaisée en Nouvelle-Calédonie, Alexis.
C'est le représentant de l'État sur place qui l'affirme ce matin après une quatrième nuit d'émeute, tout en reconnaissant des violences persistantes dans trois quartiers où, je cite, le contrôle n'est plus assuré. Une école et deux entreprises incendiées ces dernières heures, trois policiers blessés par balles dans l'agglomération de Nouméa. Le haut commissaire de la République estime que l'arrivée des renforts va changer la donne. À Paris, une troisième réunion interministérielle de crise est prévu ce matin autour du Premier ministre Gabriel Attal qui réunira ensuite les représentants du Parlement. Pour l'exécutif, priorité au retour à l'ordre et pas question, Simon Le Baron, d'accorder du crédit politique à ceux qui tiennent les barricades.
L'élément de langage s'est répandu dans les cabinets ministériels. Ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie ressemble moins aux affrontements violents des années 80 dans l'archipel qu'aux émeutes de l'été dernier dans l'Hexagone. Au départ, un motif politique, la dénonciation de violences policières après la mort du jeune Naël, la protestation contre un projet de loi dont ne veulent pas les indépendantistes, mais très vite un mouvement qui deviendrait crapuleux, voire mafieux, des pillards manipulés par l'étranger, en l'occurrence l'Azerbaïdjan selon Gérald Darmanin, et encouragés par les discours décoloniaux de l'extrême gauche. Voilà donc ce que disent ministres et conseillers. Regardez le profil des jeunes qui cassent. Ils ne sont évidemment pas des interlocuteurs fiables, explique un communicant de l'exécutif. Un discours qui vise aussi à légitimer la position du gouvernement. L'ordre, 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 seule priorité du moment. Le dialogue, de fait impossible pour l'instant, ne viendra que dans un second temps.
Le gouvernement sévèrement critiqué à gauche pour sa gestion de ce dossier calédonien, à l'image de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui dénonce, je cite, « une grande inculture politique et une immense ignorance de la part de l'État ». Son audition a duré plusieurs heures hier devant les magistrats instructeurs. L'ancien ministre Damien Abad est mis en examen pour tentative de viol en 2010 suite à la plainte d'une femme. Le député de l'Ain est aussi placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour deux autres affaires, deux autres plaintes pour viol. Lui nie farouchement les faits.
Chez Boeing, une assemblée générale des actionnaires sous tension aujourd'hui.
Et nul doute qu'ils auront beaucoup de questions pour la direction de l'avionneur en pleine tourmente aux États-Unis. Il y avait déjà l'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements nombreux subis par plusieurs modèles d'avions ces derniers mois. Et voilà que ce profil peut être un procès des dirigeants de Boeing. Pour les deux crashs de 737 MAX en 2018 et 2019, 346 morts au total. Pourtant, Philippe Lefebvre, le constructeur américain, a tout fait pour y échapper.
Pour éviter de se retrouver devant les tribunaux, les dirigeants de Boeing avaient en 2021 signé un très gros chèque de plus de 2,5 milliards de dollars et ils s'étaient également engagés à revoir la chaîne de fabrication des 737 et à être plus transparents vis-à-vis de l'autorité fédérale de sécurité aérienne. Seulement voilà, malgré les engagements de l'avionneur américain, les problèmes ont persisté à l'image du spectaculaire arrachage d'une porte d'un autre Boeing 737 flambant neuf et une enquête fédérale américaine ensuite identifié des dizaines de problèmes au niveau de la chaîne de montage. Le ministère de la Justice américain considère donc aujourd'hui que Boeing n'a pas respecté tous ses engagements et n'exclut pas d'annuler l'accord et donc d'engager des poursuites pénales contre le constructeur. La décision d'envoyer ou non Boeing devant les tribunaux pourrait être prise en juillet prochain. D'ici là, Boeing devrait continuer de perdre de l'argent. Au premier trimestre de cette année, le chiffre d'affaires de la branche commerciale du constructeur a chuté de 31%.
Lui dirige les forces de l'OTAN en Europe. Pour le général américain Christopher Cavoli, les forces russes n'ont pas les moyens à ce stade de réaliser une percée stratégique en Ukraine. Elles n'en ont, selon lui, ni les compétences ni la capacité. Reste qu'en moins d'une semaine, la Russie a conquis 260 km² dans la région de Kharkiv, où la situation est extrêmement difficile, reconnaît le président Zelensky.
6h05 sur Inter, c'était une étape clé avant le démarrage de l'EPR de Flamanville.
Oui, le chargement du combustible s'est achevé hier, ce qui va permettre la mise en service progressive du réacteur nucléaire nouvelle génération jusqu'à son raccordement au réseau électrique cet été. Les équipes d'EDF voient enfin le bout du tunnel, 17 ans après le début d'un chantier qui n'a cessé de prendre du retard. D'où une certaine émotion sur place, Pierre Coquelin.
Une opération qui est supervisée depuis une salle remplie d'écrans. C'est le centre névralgique de l'EPR de Flamanville.
Tout transite ici par la salle de commande.
Katia Rio dirige les équipes qui pilotent le réacteur.
C'est vraiment un moment historique de pouvoir être au chargement du réacteur de nouvelle génération, le premier en France que nous allons démarrer. Donc c'est vraiment une très grande fierté pour nous tous.
Ces opérations, c'est le fruit d'années de préparation, de formation sur simulateur, de retour d'expérience d'autres EPR déjà en fonctionnement en Finlande et en Chine. Actuellement, 600 personnes assurent l'exploitation du site nucléaire manchois.
Préparer et concentrer, c'est les deux adjectifs qui leur collent le mieux en ce moment.
Gregory Enfling est à la tête des équipes d'exploitation depuis 2017.
Ce qui nous anime, c'est là de réaliser toutes les opérations de démarrage en toute sûreté, de façon à la fin de l'année être capable de répondre aux besoins du réseau électrique français avec une grande fiabilité et en toute sûreté.
La montée en puissance de l'EPR va désormais se faire par palier. 58 000 critères de bon fonctionnement de la centrale ont déjà été vérifiés. Il en reste 1500 à passer au crible d'ici la fin de l'année, comme le souligne le directeur du projet EPR de Flamanville, Alain Morvan.
Il y a bien longtemps qu'on n'a pas mené des grands projets de cette envergure. On réapprend et les prochains réacteurs, ça se passera bien.
Et on peut penser aux EPR 2 prévus par le chef de l'État dans le cadre de la relance de l'atome.
Y aura-t-il d'ici la fin de journée un accord entre les médecins et l'assurance maladie sur les tarifs des consultations? Les négociations ont duré jusque tard dans la nuit. Elles doivent reprendre à midi. La CNAM propose de passer la consultation chez le généraliste à 30 euros contre 26,50 aujourd'hui. Mais les syndicats de soignants rejettent le calendrier proposé, c'est-à-dire une augmentation en deux temps d'ici à juillet 2025. En cette journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, situation paradoxale au sein de l'Union européenne, plus de la moitié des personnes LGBTQI+ assurent qu'elles peuvent parler librement de leur orientation sexuelle ou identité de genre, mais la même proportion évite de tenir la main de leur partenaire en public de peur d'être agressé. Ce sont des chiffres d'une enquête de l'Agence des droits fondamentaux de l'UE. Les associations constatent aussi qu'il manque par endroit tout simplement des lieux d'écoute. Odile Bondier a fondé Queer Avallon-Bourgogne dans la ville du même nom, c'est dans l'Yonne.
Septembre, j'ai une jeune fille qui est venue me voir, une jeune fille lesbienne qui est venue me voir, moi je pourrais bien être sa mère, hein, et qui était complètement désespérée, qui avait un gros chagrin d'amour. Et il y avait nulle part sur Avallon, il y avait pas d'endroit pour se réfugier, il y avait pas d'écoute en fait. Elle avait peut-être pas de psy sous la main, mais même certains psys sont pas spécialement très à l'écoute de tout ça. Voilà. Donc elle est venue me voir parce que j'étais la seule référente. Et là, ça m'a fait mal en fait de me dire il y a des gens qui sont désespérés. Et ils n'ont pas d'endroit où aller. Voilà. Donc si on pouvait avoir un lieu d'accueil à très très long terme, on va dire ça serait vraiment l'aboutissement de cette association.
Odile Bondier de l'association Queer Avallon au micro de France Bleu Auxerre. C'est la grosse surprise de la liste des Bleus dévoilée hier soir par Didier Deschamps pour l'Euro de foot dans un mois. Le retour de N'Golo Kanté qui n'a plus joué en équipe de France depuis 2 ans. Lui qui est exilé désormais dans le championnat saoudien. Les Bleus attendus le 29 mai à Clairefontaine pour la préparation de ce tournoi.
Et puis c'est l'événement musical de la semaine et c'est sur France Inter.
Oui, toute la journée votre radio va vous dévoiler le nouvel album de Billie Eilish, Hit Me Up. Hard and Soft, troisième disque de la star américaine qui a seulement 22 ans, s'est déjà imposé comme un grand nom de la pop mondiale. Alors on y va, qu'est-ce qu'il a dans le ventre cet album? Premiers échantillons avec vous Mathieu Culeron.
Tout commence par une ballade qui évoque la naissance d'un premier amour. Billie Eilish semble poser le décor. Très vite, le rythme s'élève pour évoquer une passion naissante, Billie Eilish, qui chante qu'elle ferait bien de cette fille son déjeuner. Les ambiances chaudes, lancinantes, s'enchaînent, ralentissent, puis s'emballent, avec des ruptures de rythme à la fois élégantes et parfois surprenantes, illustrées par ce « Désolé mon amour » qui ne passera pas inaperçu auprès des fans français. Billie Eilish qui évoque aussi longuement un amour finissant tout en alternant des grandes ballades romantiques et des ambiances électropop, clin d'œil au tube des années 80. La chanteuse et son frère à la production qui semblent en pleine possession de leurs moyens, sans artifice, sans exagération. La chanteuse star de la pop livre ici l'un de ses meilleurs albums tant il est multiple et foisonnant. Et que dire de cette ballade qui à elle seule pourrait propulser ce disque tout en haut de la discographie de Billie Eilish.
I'm trying my best.
Le nouvel album de Billie Eilish en partenariat avec France Inter. Vous pourrez l'écouter en entier ce soir à 22h sur notre antenne.
Merci Alexis Morel. 6h10, Esprit Sport.
Esprit Sport, avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS à Grey Knapps.
Esprit Sport avec Emma Sarango. Bonjour Emma.
Bonjour.
Ce matin, on est à la fois dans les airs et dans la mer. Ce matin, avec l'une des nouvelles disciplines des Jeux Olympiques à Paris cet été.
Oui, le kite foil. Il faut imaginer une voile comme un cerf-volant en quelque sorte, relié par quatre cordes à une planche, comme une planche de surf, mais sous laquelle on a rajouté un foil. Vous savez, ces appendices que l'on retrouve dans la voile qui permettent de quasiment voler sur l'eau. Eh bien, le kite foil est une discipline dans laquelle les Français sont précurseurs et dont les mondiaux se déroulent en ce moment à Hyères, dans le Var. C'est le dernier grand rendez-vous avant les JO.
Et l'une des stars de ces mondiaux, Emma, c'est une jeune Française de 25 ans.
Lauriane Nolo, vous l'avez peut-être vue récemment dans la rade de Marseille avec son kite foil, justement. Elle a escorté le Belém, le trois mâts qui ramenait la flamme olympique la semaine dernière. Lauriane Nolo, donc, est championne du monde en titre, championne d'Europe, élue en décembre marin de l'année 2023. Et pourtant, c'est par une autre discipline olympique que la Française a débuté. Pas de voile, même pas de mer, mais un cheval, l'équitation, bien plus classique. Mais à ses 17 ans, son père et son frère lui font essayer le kite et dit-elle « J'en suis tombée amoureuse, la vitesse, la glisse, la stratégie aussi. En course, ça va très vite, les planches sont très proches les unes des autres. En gros, il ne suffit pas que ça souffle bien pour être bon, loin de là. » Or, Lauriane Nolo se découvre vite un talent naturel, elle intègre un pôle d'entraînement. Et en 2021, en plein Covid, quand Paris 2024 confirme le kite foil comme discipline olympique, elle s'y consacre intégralement. En 3 ans à peine, elle devient la meilleure mondiale, avec un avantage supplémentaire pour viser l'or cet été. La Varoise peut s'entraîner très régulièrement à Marseille sur le futur site olympique.
On croise les doigts, c'était l'Esprit Sport d'Emma Sarango, merci.
À suivre, la fin annoncée du casse-tête des chargeurs de téléphone dans le grand angle et les mariages durables au sens écologique, je précise, dans la chronique Esprit Pratique.